Vous écoutez le balado Littératie financière, une présentation de Gestion financière MD, la seule société pancanadienne de services financiers qui se consacre au bien-être financier des médecins et des membres de leur famille.
Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à ce nouvel épisode du balado Littératie financière. Si vous nous écoutez pour la première fois, sachez que cette série de balados est une façon pour Gestion financière MD d'aider les médecins et leurs familles à mieux comprendre leurs finances. Les conseillers de MD comprennent les besoins uniques des médecins en matière de planification financière et savent exactement quelles ressources leur proposer pour faciliter l'atteinte de leurs objectifs personnels et professionnels. Mon nom est Sébastien Desbiens et je suis membre de l'équipe Patrimoine de gestion MD et je suis très heureux aujourd'hui d'être à la barre de l'épisode qui portera sur la planification pour la retraite lorsque l'on est médecin. Que vous soyez un vétéran ou tout fraîchement sorti de la résidence, il est important d'avoir un bon plan d'épargne pour la retraite afin de vous assurer que vous et votre famille ne manquiez jamais de rien. Pour nous aider à y voir plus clair, nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous Mme Ariane Denis. Merci beaucoup de t'être joint à nous aujourd'hui, Ariane.
Merci de l'invitation, Sébastien. Je suis très heureuse de pouvoir parler à nos auditeurs du merveilleux monde de la retraite, qui est plus dynamique qu'il en a l'air. Je sais que les médecins travaillent très fort pour les autres tout au long de leur carrière, alors aujourd'hui, j'aimerais qu'ils sachent que nous aussi, on s'occupe d'eux. Et j'aimerais aussi qu'ils soient bien prêts et bien informés au moment d'entamer le prochain chapitre de leur vie, peu importe la forme qu'il prendra.
C'est formidable. Et c'est d'autant plus important en contexte de pandémie. Malgré l'incertitude qui règne, il est primordial d'avoir un plan et un objectif pour nous aider à garder le cap.
Tout à fait.
J'imagine qu'un bon point de départ serait d'expliquer pourquoi la planification pour la retraite est si différente pour nos médecins.
Oui, c'est un excellent point de départ, comme vous mentionnez. Donc, nous savons tous que pour devenir médecin, le parcours est très, très long et ça coûte quand même très cher. Ce que ça signifie, c'est que les médecins ont tendance à commencer à exercer leur profession et aussi à faire de l'argent beaucoup plus tard que la moyenne des gens. Donc, pendant les premières années, la plupart des médecins ont aussi beaucoup de dettes à rembourser. Donc, certains vont faire le choix de cotiser à un fonds de retraite, rembourser leurs dettes simultanément, mais pour la plupart, le gros de l'épargne ne vient que beaucoup plus tard. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi beaucoup de médecins qui prennent leur retraite plus vieux que la moyenne des gens. Donc, en fait, selon une récente étude d'MD, 38% des médecins actuellement en exercice ne s'attendent pas à prendre leur retraite avant l'âge de 65 ans. La plupart n'ont pas accès à un régime de retraite de l'employeur, donc leur fonds de retraite, ils doivent se le constituer eux-mêmes. Pris tous ces facteurs ensemble, ça démontre bien que les médecins et leurs ménages doivent planifier très stratégiquement s'ils veulent s'assurer d'avoir ce qu'il leur faudra pour prendre soin d'eux-mêmes et de leurs êtres chers durant cette période-là de leur vie.
C'est bien vrai. Et comme nous le savons, qui dit planification stratégique dit forcément expert-conseil.
Tout à fait.
Et le conseiller financier, selon vous, Ariane, est-ce que c'est un personnage de premier ordre?
Oui. La planification de la retraite, c'est un peu comme un casse-tête et les conseillers d'MD peuvent en assembler tous les morceaux pendant que le médecin, lui, il s'occupe de ce qui compte pour lui, sa famille, ses proches, ses objectifs personnels et aussi sa carrière.
Fantastique. Avant d'aborder les stratégies d'épargne retraite, peux-tu nous en dire un peu plus sur les différents morceaux du casse-tête? De quoi les médecins et leurs conseillers parlent-ils généralement en rencontre?
Eh bien, dans un plan de retraite, il y a beaucoup d'autres facteurs à considérer au-delà de l'argent à mettre de côté. C'est certain que l'épargne, c'est un gros morceau, mais le conseiller doit disposer de d'autres informations essentielles pour aider à établir ses objectifs. Par exemple, ce que vous voulez faire durant votre retraite. Lorsque vous rencontrez un conseiller, la première chose qu'il va vous demander est comment envisagez-vous votre retraite? Ensuite, il va évaluer vos finances personnelles pour déterminer si vous êtes en mesure de prendre cette retraite en fonction de ce que vous avez déjà accumulé et de votre stratégie d'épargne actuelle. Si vos objectifs sont encore un peu flous, un bon conseiller va pouvoir vous aider à les préciser. Si vous êtes comme la plupart des médecins, vous tirez la très grande majorité de vos revenus de retraite de votre REER, de votre CELI et aussi de votre portefeuille de placement personnel. De plus, si vous avez une corporation, vous détiendrez probablement la plupart de vos actifs dans votre compte d'entreprise. Dans tous les cas, un conseiller va pouvoir vous aider à déterminer la meilleure façon d'équilibrer votre épargne pour maximiser les avantages fiscaux actuels et futurs. Enfin, Si vous exercez en société, vous devez aussi planifier la façon dont vous entendez vous rémunérer lorsque vous cesserez de pratiquer la médecine. Comme votre pratique ne vous rapportera plus d'argent, vous pourriez décider de vous verser un dividende plutôt qu'un salaire. Vous pourriez également fermer votre cabinet ou transformer votre société en société de portefeuille, ou même la dissoudre, vendre vos actifs. Votre conseiller et votre fiscaliste pourront vous guider vers les options qui correspondent le mieux à vos objectifs et vous tracer la voie à suivre. Et finalement, un autre aspect de votre planification financière est votre legs. Vous pourriez décider de laisser un héritage à votre conjoint, vos enfants ou d'autres proches à votre décès. Votre conseiller va pouvoir vous aider à y voir plus clair dans ces objectifs-là et aussi déterminer les besoins de vos bénéficiaires. Il pourra également regarder le côté fiscal des dons que vous voulez faire pour que vos proches puissent profiter pleinement de ce que vous allez leur laisser en héritage. Il faut aussi ne pas oublier qu'un plan financier, c'est quelque chose qui change en cours de route. Donc, c'est pas coulé dans le béton. Donc, si vous déménagez, vous divorcez, vous recevez un gros héritage, vous devez contacter votre conseiller pour vous aider à ajuster le plan et rester sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs.
Bon, ce que j'entends, c'est qu'il y a plusieurs façons de constituer un fonds de retraite. Les médecins ont accès à de nombreux outils qu'ils peuvent combiner entre eux. Peux-tu nous en dire un peu plus sur ces solutions?
Tout à fait. Donc, la plupart des outils auxquels les médecins ont accès sont les mêmes que Monsieur, Madame, tout le monde. Le CELI, par exemple, est très populaire parce que les retraits sont exempts d'impôts et on peut utiliser l'argent pour n'importe quelle utilité. Il y a aussi des produits plus spécifiques comme le REER et le FER qui sont conçus spécifiquement pour l'épargne retraite et qui sont aussi très populaires auprès de tout le monde, pas juste les médecins.
Le REER et le FER, ce sont deux choses distinctes?
Oui, tout à fait. C'est deux types de comptes différents, mais qui utilisent les mêmes fonds. Donc, le REER, c'est le régime enregistré d'épargne retraite. L'argent que vous y cotisez y demeure et va croître à l'abri de l'impôt tout au long de votre vie. À 71 ans, le REER doit être converti en FER, qui veut dire fonds enregistré de revenus de retraite. Vous pouvez également choisir de transférer vos fonds de votre REER dans une rente ou en retirer le solde complet. Le FER permet, par contre, de continuer à croître à l'abri de l'impôt. Vous pouvez retirer juste ce que vous avez besoin, donc on évite de payer l'impôt tout d'un coup. La principale différence, c'est que le FER ne permet pas de faire des cotisations, on peut juste faire des retraits. C'est ici que la diversification va prendre tout son sens, parce que si vous continuez à travailler après l'âge de 71 ans, vous devrez cotiser votre épargne ailleurs que dans le REER ou le FER. Enfin, une autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'une fois que le REER est converti en FER, il y a un retrait annuel minimum à respecter. Par exemple, donc, à l'âge de 71 ans, vous devez retirer 5,28% de la valeur du FER au 31 décembre de l'année précédente. Et ce pourcentage-là va augmenter à chaque année. Donc, plus vous vieillissez, plus vous devez retirer un montant plus élevé. Donc, plus vous allez devoir payer d'impôts. Donc, ça signifie aussi que si vous convertissez votre compte REER plus tôt, les retraits vont commencer plus tôt et vous allez payer votre impôt sur une plus longue période de temps. On commence. Cependant, vous pouvez également retarder le retrait des fonds de votre FER si vous êtes marié à un conjoint plus jeune que vous, en vous basant sur l'âge de votre conjoint pour faire les retraits. La conversion, elle, est très simple. L'institution financière qui détient le REER va communiquer avec vous lorsque le moment sera venu et vous allez devoir remplir des documents. Si vous n'effectuez pas la conversion avant le 71e anniversaire, votre REER sera désenregistré et les conséquences fiscales pourraient être lourdes, puisque le montant total va être ajouté à votre revenu et donc vous serez imposé sur le montant au complet.
Ah, d'accord. Alors, si on retire d'un REER ou d'un FER, ces retraits sont imposés comme s'il s'agissait d'un revenu, c'est ça?
Exactement.
Ces comptes fonctionnent de la même façon qu'on soit médecin ou non? Y a-t-il des outils d'épargne qu'un médecin doit envisager différemment?
Oui. En fait, la raison pour laquelle la plupart des médecins doivent financer leur propre retraite, c'est qu'ils n'ont pas accès à un régime de retraite privé ou un régime de retraite d'employeur. Au Canada, on a le RPC, le régime de pension du Canada. Au Québec, c'est le régime des rentes du Québec, qui fonctionne un peu de la même façon. Donc, pour avoir droit aux prestations du RPC ou du RRQ à la retraite, il suffit d'avoir cotisé au régime pendant que vous étiez employé. En général, les cotisations sont réparties en parts égales entre vous et votre employeur et votre part est automatiquement déduite de votre salaire. Cependant, les médecins sont des travailleurs autonomes. Ils sont donc responsables de faire les cotisations à 100 %. Donc, autant pour la partie employée que la partie employeur. Le hic, c'est que le revenu de pension est basé uniquement sur le salaire. Cela signifie que les médecins qui choisissent de se rémunérer en dividendes ne sont pas accessibles au RPC ni au RRQ. Mais ceux qui ont cotisé sont admissibles aux prestations dès l'âge de 60 ans. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important quand on choisit entre se payer un salaire de la corporation ou un revenu de dividende.
Et comment les prestations du RPC et du RRQ sont-elles calculées?
Les montants de la prestation mensuelle sont fondés sur le nombre d'années au cours duquel on a cotisé et sur le montant, ce qu'on appelle les gains annuels ouvrant droit à pension. Le paiement mensuel moyen pour une personne de 65 ans est d'environ 700 $ par mois et c'est indexé au coût de la vie. Pour recevoir les prestations, il faut en faire la demande. Comme je l'ai mentionné plus tôt, il est possible de le faire à partir de l'âge de 60 ans, mais il y a plusieurs avantages à attendre. D'abord, le fait que de retarder le versement des prestations signifie que les paiements mensuels seront plus importants puisque vos fonds sont versés sur une plus courte période. Aussi, les revenus antérieurs sont actualisés pour être évalués à l'année où vous commencez à recevoir vos prestations. Plus vous attendez et plus cet ajustement-là va être élevé. Donc, quelqu'un qui attend jusqu'à 70 ans pourrait recevoir 50 % de plus que s'il avait commencé à recevoir les prestations à l'âge de 65 ans.
Et ce sont toutes des bonnes options, alors. Juste pour venir sur ce que tu disais à propos de la planification qu'un conseiller serait en mesure de déterminer comment combiner le tout de façon le plus stratégique possible. Peux-tu préciser un peu ta pensée ici, Ariane?
Bien sûr. Comme je le disais précédemment, les mécanismes de retrait sont différents pour chacun des types de comptes et de placements. Donc, ça signifie qu'il y a un ordre optimal pour les retraits et cet ordre-là va dépendre principalement de vos objectifs. Supposons que votre premier objectif à la retraite, c'est de minimiser les impôts. Dans ce cas-là, vous allez probablement décider de retirer les fonds de votre CELI en premier parce qu'ils sont libres d'impôts. Ensuite, vous allez passer à votre portefeuille personnel non enregistré, si vous en avez un, ou à votre compte d'entreprise. La clé ici, c'est de garder le RPC, le RRQ, le REER et le FER pour la fin, car comme on l'a mentionné un peu plus tôt, ces retraits-là sont entièrement imposables. Mais il ne faut pas oublier de retirer le pourcentage de retrait annuel obligatoire du FER par contre. Si, par exemple, votre objectif, c'est de préserver votre patrimoine et de laisser un plus gros héritage à vos enfants ou à votre conjoint ou à vos autres bénéficiaires, alors dans ce cas-là, on pourrait utiliser une stratégie inverse. On va retirer en premier les revenus de retraite parce qu'ils vont être imposés. Ensuite, on va utiliser les rentes de régime public et on va garder le CELI pour la fin. Comme ça, vos bénéficiaires n'auront pas à payer l'impôt sur leur héritage. Votre conseiller pourrait aussi vous recommander de consolider vos comptes. Si vous avez beaucoup de REER, beaucoup de CELI dans diverses institutions financières, vous risquez de vous trouver avec un beau casse-tête pour tout démêler ça. Donc, on peut regrouper les comptes pour que ça soit plus facile à gérer. Ça va vous permettre aussi de mieux évaluer la répartition des actifs. Un autre avantage de cette technique, c'est qu'elle entraîne souvent une baisse des frais à payer.
Et je suppose que le temps est un facteur de premier plan dans la stratégie de retraite. Nous avons parlé plus tôt que tout était décalé pour les médecins parce qu'ils commençaient leur carrière et prenaient leur retraite un peu plus tard que la moyenne des gens. Comment peuvent-ils déterminer le bon moment pour prendre leur retraite?
C'est une question qui est très difficile, principalement parce que personne n'est exactement dans la même situation. Ça dépend vraiment des objectifs de chaque personne et de son idée d'une retraite confortable. Il y a des indicateurs qui vont nous permettre de déterminer si vous pouvez de ralentir un peu votre rythme de travail, travailler à temps partiel ou si vous devez encore continuer à travailler pendant quelques années. La première chose, c'est de vérifier l'état des finances. Est-ce que tout est en ordre? Est-ce qu'on a assez épargné pour maintenir le train de vie qu'on veut avoir à la retraite? Est-ce qu'on a encore des enfants à notre charge ou d'autres personnes à charge qui dépendent de vous? Est-ce que votre conjoint est à la retraite? Si c'est le cas, comment vos fonds de retraite vont-ils se combiner entre eux? Est-ce qu'on a une réserve en cas d'urgence médicale ou autre urgence qui peuvent arriver? Donc, la santé est un facteur clé lorsqu'il est question de retraite et être médecin, c'est exigeant. Votre santé physique et psychologique ne sont peut-être plus ce qu'elles étaient. Est-ce que votre situation vous permet de ralentir la cadence pour prendre soin de vous-même? D'autres questions qu'il faut se poser, c'est est-ce que vous prévoyez des changements ou des événements importants dans votre vie qui nécessiteraient peut-être quelques années de plus à travailler pour épargner un peu plus, comme par exemple faire des rénovations majeures dans notre maison ou un déménagement, ou peut-être que vous voulez continuer à aider vos enfants à payer leurs études, payer leur mariage ou peut-être leur donner de l'aide pour acheter leur première maison. Donc, si c'est le cas, peut-être que vous allez préférer travailler encore quelques années que devoir piger dans votre fonds de retraite pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Donc, tout dépendant de votre situation personnelle, la meilleure chose à faire pour déterminer le bon moment pour prendre votre retraite, c'est d'en parler avec votre conseiller. Il va être en mesure de faire des projections de retraite et aussi il va veiller à ce que vous n'ayez pas de mauvaises surprises quand le moment va être venu de prendre votre retraite.
Absolument, Ariane. Nous arrivons déjà à la fin de l'épisode, mais avant de conclure, as-tu un dernier conseil pour nos auditeurs?
En fait, oui. Je pense que une des choses les plus importantes à retenir, c'est qu'il n'est jamais trop tôt pour commencer à planifier sa retraite. Comme médecin, vous avez des millions de choses à payer. Votre parcours financier, il est unique. Il y a avec les dettes d'études, les coûts de formation, les dépenses professionnelles, et en plus de tous les autres coûts comme la famille, une maison, les vacances, toutes ces choses-là. Donc, il faut faire en sorte que vos premières années de carrière soient moins stressantes en planifiant et en vous préparant le plus tôt possible. Et il ne faut pas oublier que les conseillers professionnels de MD sont là pour vous aider. Ils comprennent à quel point les médecins travaillent très fort pour aider les autres. Et nous, de notre côté, on s'engage à faire en sorte que votre retraite soit un moment agréable et vraiment gratifiant.
Merci beaucoup encore une fois, Ariane, de t'être joint à nous aujourd'hui. Ça a été un réel plaisir de discuter avec toi.
Merci également, Sébastien. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir et j'espère vraiment avoir pu aider quelques auditeurs aujourd'hui.
Sans aucun doute, Ariane. J'aimerais profiter de l'occasion pour remercier nos auditeurs. Au prochain épisode, nous aborderons la question de la planification successorale pour les médecins. Si vous avez aimé les informations que nous avons offertes sur la retraite, ne manquez pas ce rendez-vous. D'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine.
Vous venez d'écouter le balado « Littératie financière », une présentation de Gestion financière MD. Pour plus d'informations ou pour trouver un conseiller, visitez le md.ca.